A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poule à Raffut. Je suis ravi de vous retrouver pour cet énième épisode avec notre ami et bien sûr mon collaborateur Arnaud Beurdelet, journaliste au Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poule à Raffut, vous le savez, hein, c'est le podcast qui raffute le rugby. Au programme aujourd'hui, un podcast, quasiment 100% rugby amateur. Comme chaque semaine, désormais, Raph nous servira d'abord sur un plateau son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Maxime Moukou, demi de mêlée international de l'Union Bordeaux-Bègles. Et évidemment, il sera aussi question de rugby amateur avec Maxime. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain Raffut. Et là encore, rugby 100% amateur. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous, hein, évidemment, pour ne rien rater de la saison 6 de Poulain Raffut. Est-ce que vous êtes prêts? J'en suis sûr. Poulain Raffut, saison 6, épisode 7, c'est parti. Allez, première partie, la ruade de Poulain, la désormais traditionnelle ruade de Poulain. Raph, on l'a dit, hein, cette semaine, on va parler un peu de rugby amateur. Je crois qu'il y a une histoire, ou plutôt une rencontre qui t'a particulièrement marqué. Ça se passe dans le sud de la France, c'est bien ça?
Exactement, Arnaud. Moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un club qui fleure bon, le rugby amateur. Comme tu viens de le dire, Arnaud, le RCT, le Rugby Club Tarasconnais. Derrière ce petit billet d'humeur, c'est à tous les clubs de rugby amateur que j'aimerais rendre hommage. Ce club a été créé en 1966 par Robert Galvier sous le nom de Rugby Club Amateur Tarascon Beaucaire. Depuis sa création, le club a pu grandir grâce à l'investissement de nombreuses familles comme les Martinez, Bella, Colombo, Crouzier, Demis, Quesneau, Portela. Portela, ça me fait penser à Mathieu Laporte d'ailleurs. Petite dédicace, Morin et d'autres. Les deux clubs se séparent avec perte et fracas au milieu des années 80 et depuis, plus de son, plus d'image. De l'eau coule sous les ponts, séparant les deux sœurs ennemies à l'est du Rhône, la provinciale, romaine, Tarascon, à l'ouest, la Narbonnaise, Beaucaire, plus tard, le Saint-Empire romain germanique, en face, le Royaume de France. D'un côté, les catholiques, de l'autre, une place forte protestante. D'un côté, les Bouches-du-Rhône, de l'autre, le Gard. L'histoire fratricide, souvent, dure de génération en génération depuis plus de 2 millénaires, et vous l'aurez compris, bien au-delà du rugby. Rien ne prédestinait les deux clubs à reformer cette union trentenaire, mais c'est sans compter sur les fils de dirigeants juniors des années 80-90, devenus pères, qui reprennent les clés du camion dans chacun des deux clubs. Comme Stéphane Molon, que j'ai rencontré un samedi matin à Saint-Étienne-du-Grèce, petit village provençal où mes enfants sont scolarisés depuis quelques mois. C'est le jour des rencontres avec les associations sportives. Je me balade en famille avec pour objectif de trouver un sport à faire à mes deux diables en manque de sensations fortes et bim, je tombe sur le RCT. 4 poignées de main plus tard, je suis à 2 doigts de reprendre une licence. Stéphane, fidèle parmi les fidèles du club de Tarascon, m'invite au club house quelques jours plus tard. Autour d'un café, il m'explique qu'il devient président du rugby club tarasconnais, presque au même moment où le club perd son équipe senior en 2018. Pendant la pandémie de Covid-19, Stéphane reçoit un SMS de Romain Ravel, l'entraîneur de Beaucaire, l'ennemi, qui lui propose de devenir entraîneur avec lui. Il propose aussi de réfléchir à un rassemblement senior avec le club voisin Beaucaire Rugby Club. Stéphane pense que c'est une blague. Il trouve ça lunaire, sachant le divorce et l'indifférence entre les deux clubs depuis le milieu des années 80. Les premiers contacts se font par téléphone, en visio, confinement oblige, avec M. Germain, le président de Beaucaire. La mayonnaise prend tout de suite et le rassemblement prend vite forme. Aujourd'hui, la fusion Beaucaire-Tarascon démarre sa 3e saison et compte plus de 200 licenciés. L'avenir se joue à 2 à présent et comme le veut l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Depuis d'autres ententes, notamment avec Arlo Valive, a vu le jour, le club continue de grandir avec une école de rugby labellisée une étoile depuis la fin de la saison dernière. Fin janvier a lieu le tournoi Tartamino pour les M8 pardon, sur Tatami. En mai, il y a le challenge Damien Sigenza, un joueur décédé à l'âge de 19 ans d'une longue maladie. Bref, comme dans chaque club amateur, le même genre d'histoire. C'est universel. Dans notre cher rugby, les mêmes odeurs, les mêmes hommages et toujours ces bénévoles au milieu. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns de bénévoles, comme Jacques Delmas, homonyme de l'illustre entraîneur. Jacques, 75 ans, la bible du club, qui flanche un peu niveau physique, mais qui se souvient encore, la larme à l'œil et le fou rire en coin, d'avoir emplâtré la voiture de l'ancienne arrière du Racing Club Toulonnais, Jérôme Bianchi, lors d'une soirée un peu trop arrosée dans les années 80. J'en profite pour féliciter toutes et tous les bénévoles, parce que derrière cet exemple de rugby club Tarascon, Vous l'aurez compris, c'est le rugby amateur qui est concerné. C'est une affaire de famille, de vrai soutien, de bénévoles, d'histoire un peu folle qui permet au petit club de survivre. Ah oui, il y a aussi la femme de Stéphane, Céline, qu'on imagine faire les sandwichs à toute l'école de rugby et penser les petits bobos des poussins, comme Anne-Marie Lenormand à mon époque, à Beauvais. Je sais qu'il y a toujours une Céline dans tous les clubs de rugby amateurs, voire deux, voire trois, et on leur rend hommage. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Lucien Limousin, le maire de Tarascon, qui lui aussi est au soutien, souvent sur le bord du terrain, car son fils est dirigeant et les deux petits enfants sont joueurs au RCT. Je crois que, les gars, je vais rechausser les crampons pour jouer à toucher à 5 le jeudi soir au stade du Robian. Avis aux amateurs de pas sur un pas, de crochet et autres cadrages débordements, je vais peut-être enfin apprendre à vraiment savoir jouer dans l'intervalle et enfin de boucler la boucle comme un retour à la source du rugby, comme un jubilé sur un terrain plein de boue avec des potes comme à l'époque de mes débuts au BRC, mon club de Beauvais. À la vôtre et chapeau à toutes celles et ceux qui tiennent encore à bout de bras la cabane qui n'est toujours pas tombée sur le chien. Chapeau à tous ces petits clubs où les moustachus, bras croisés, en maillot, avec lacets, les épaules renforcées sur des photos jaunies par le temps, nous prouve que de génération en génération, on n'oublie pas, on garde le cap, coûte que coûte, et que parfois, pour survivre, il faut savoir affronter l'histoire et enterrer les haches de guerre. Alors, à la tienne, cher rugby amateur, et merci à ces milliers de Céline, de Stéphane, qui font vivre nos petits clubs sans rien attendre en retour que de vivre des émotions encore et encore.
Allez, deuxième partie de Poulain Rafute. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir le demi-mêlée international de l'Union Bordeaux-Bègles, Maxime Loucou. Salut Max, d'abord un grand merci d'avoir accepté l'invitation de Raphaël.
Non, bonjour à tous. Merci à vous déjà, parce que c'est toujours un petit plaisir de se rappeler un peu les émissions, notamment avec toi Arnaud de la Pro D2, quoi.
Absolument. Et moi, j'ai eu la chance de te connaître, mais bon, j'étais sur le bord terrain. Ça a duré 6 mois. J'ai commenté quelques-uns de tes matchs. Le problème, c'est que je connaissais pas le nom des joueurs. Et dès que je disais lancer deux, il y avait déjà essayé. Donc les mecs m'ont foutu sur le digital, et je suis ravi de te voir. Donc Max, avant de rentrer dans le vif du sujet, enfin, on se connaît pas particulièrement. Je tiens à le préciser quand même à ceux et celles qui nous écoutent. Mais quand je lis les articles de toi, quand je vois voilà, tes petites sorties un peu médiatiques, on ne parlera pas du gâteau que tu as pris sur le coin du museau par Penaud. Elle était magique.
C'est moche. Mais... ça, c'est moche.
Ouais, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Mais c'est beau, mais c'est pas beau. Moi, je sens le bon mec, tu vois, celui qui ressemble à mon demi de mêlée que j'avais quand j'étais à Beauvais, tu vois, en honneur ou en fédéral 2. Alors dis-moi si je me trompe, on a l'impression que tu serais exactement le même si tu jouais encore à Saint-Pé-sur-Nivelle. Je me trompe ou pas?
Non, je pense que tu ne te trompes pas trop. Non. J'ai gardé un petit peu ça, et c'est un peu le rugby que j'aime aussi, même s'il faut amener aussi un peu de professionnalisme. Mais je garde un peu ça, j'aime bien ça. Ouais. J'aime bien déconner, j'aime bien ce qui est l'après-rugby, j'aime bien voilà, faire le camp quand l'entraînement est fini, les ventres glissent, les douches, toutes les choses. En plus, on a un groupe qui n'est pas trop mal ici, donc j'aime bien ça. C'est sûr que je reste un peu le gamin de CMP pour certains, et ça, des fois, ça choque un peu, mais bon, ça fait partie de... Ça montre aussi qu'on peut être comme ça et que ça marche, quoi.
Ouais, ça fait du bien quand même dans un monde qui s'aseptise hein, de plus en plus d'avoir cet esprit un peu potache et cet esprit du rugby amateur. Mais avant de poursuivre, messieurs, je vous propose, Raph, que tu nous livres le portrait de Max Loucou, version Poulain Rafute. C'est maintenant.
Alors oui, je le disais, on l'a dit, originaire de Saint-Jean-de-Luz, formé au SPUC, le club de Saint-Pé-sur-Nivelle, comme ton frangin d'ailleurs, Chimoun. Alors il va falloir me rectifier sur la prononciation, tu l'as fait tout à l'heure, mais Max, c'est Chimoun.
Chimoun, c'est très bien.
Chimoun, c'est très bien. Donc, merci beaucoup.
T'as un bel accent.
Il a eu l'accent picard, et pourtant j'ai parfois l'accent du sud, ça n'a aucun sens. Bref, c'est donc au BO que tu deviens professionnel en 2014, et comme on le répète, la Pro D2 étant l'antichambre du top 14, c'est tout naturellement que tu as atteint le très haut niveau, avec à la clé une place au sein du 15 de France. Bref, le tableau est cadré, classe, ordonné, et maintenant que le joueur est présenté, moi j'aimerais en savoir un peu plus sur l'homme, donc j'ai pas l'impression que tu puisses dégoupiller souvent, en fait, Maxime Loucou, mais quand ça arrive, ça doit piquer force apparemment tranquille de l'UBB. Tu es devenu une pièce maîtresse du jeu bordelais, de l'équipe de France, où tu as su t'imposer ta patte discrètement et sûrement. On sent une remise en question constante du joueur, un côté perfectionniste, pardon, typique du demi-mêlé, mais sans le côté crevard, casse-couille, rongeur de sermon d'un stringer ou d'un Rory Cocotte. Alors là, tout de suite, c'est aussi une qualité, selon moi, donc on va pas commencer à ouvrir des grands débats là-dessus. J'ai cité les plus doués dans cette catégorie les 20 dernières années. On rend une petite dédicace d'ailleurs en parlant à Stringer, on prend une grande petite dédicace à Jérôme Fiol qui avait joué au Lama il y a quelques années. Bon bref, perso, moi je te trouve complémentaire à la fois avec le caractère de Jalibert, mais aussi sur l'impact player, le côté je finis le taf, les fameux finisseurs, que tu es devenu avec le 15 de France en complémentarité d'Antoine Dupont. Bref, qui est ce joueur aussi talentueux qu'énigmatique? C'est ce que j'espère découvrir un peu plus aujourd'hui. Donc, welcome dans Poulain Rafute, Maxime. Je suis très content que tu m'aies dit justement que tu étais fan de Ventriglisse, le dernier que j'ai fait à Saint-Tropez. J'ai failli perdre mon deuxième rouleau. Ça, c'est ma dédicace. J'aimerais, avant qu'on débute, voilà, par une bonne nouvelle, Max, avant qu'on parle vraiment de toi, parce que je pense que c'est une chose avec laquelle tu dois être attaché. La FFR a annoncé une augmentation du nombre de licenciés de 14% par rapport à l'an dernier. Et je crois que les résultats de l'équipe de France ne sont pas étrangers. Alors moi, là, une question pour le demi-mêlée des Bleus que tu es aujourd'hui. Est-ce que vous avez conscience, est-ce que tu as conscience de l'importance que vous pouvez avoir sur tous les gamins et les gamines qui vous regardent ?
Ouais, forcément qu'on a un impact qui est important dans le rugby. Quand tu es gamin, c'est vrai que des fois, tu ne vois pas forcément le top 14 en premier. Les parents te mettent, moi je parle pour moi, mes parents me mettaient le Six Nations, les tournées de novembre, les tournées d'été, tout ça. Et c'est vrai que tu regardes l'équipe de France. Donc forcément que quand l'équipe de France marche, ben on amène des gamins avec nous. On a fait pas mal d'entraînements quand on était à Marcoussis pendant le Six Nations. Où beaucoup de gamins venaient nous voir de la région parisienne, et tu sens que voilà, il y a un sourire, un bonjour, un geste, les rend les plus heureux possible. Donc ça leur donne envie d'aller s'entraîner le samedi matin. Et je parle pour moi aussi au Pays Basque, où beaucoup de gamins du CMP ont voulu s'identifier à Charles ou à moi quand on portait le maillot de l'équipe de France, et notamment pendant la tournée du Japon. Donc forcément, on sait que tous nos faits et gestes sont scrutés par les gamins, et ça amène, quand il y a des victoires et un groupe comme on a depuis 2-3 ans, mais énormément de licenciés en plus, et c'est que bénéfique pour le rugby français, quoi.
Ouais, c'est génial et ça fait du bien. Moi, j'ai souvenir. On est en 94. Hein. Si tu étais né ?
Si, t'étais. Oui, un an, j'avais.
Ouais, non, bon, j'en avais 14, mais je me souviens, moi, d'être allé voir avec mon oncle, en fait, et mon père. Ouais, l'équipe de France s'entraînait à Uzès. Et tu vois ces monstres. Et c'est Olivier Rouma qui me remet une coupe en 91. Bon, là, tu n'étais pas né. Mais c'est des trucs qui marquent, en fait, quand tu es gamin et quand tu es mineur. Justement, quand tu es gamin, toi, tu rêvais pas d'être rugbyman professionnel. Moi, j'ai retrouvé une déclaration de ta part. Tu disais, j'avais pas ça en moi. Je me disais, ça arrive aux autres. Ben, je leur laisse. Au Pays Basque, on n'est pas forcément éduqué pour être professionnel de rugby. Il y a tellement de choses à faire, d'autres sports à découvrir. Alors, c'est marrant, Maxime, parce que au-delà de la coupe de cheveux qu'on a en commun, on a aussi ce point commun, c'est que moi, originaire de Picardie, je n'étais pas passionné par le rugby. En fait, je ne pensais pas en être professionnel. J'étais plus connecté, je t'avoue, sur les champs de betteraves et les mobilettes que sur le ballon ovale. Mais comment, toi, ça t'est venu, toi, finalement, cette… Alors, je ne vais pas prendre ce mot. Si je vais l'utiliser, ce mot, tu sais, c'est ce mot à la mode, cette appétence pour le rugby professionnel. D'où ça t'est venu ?
Bah, je pense que ça m'est venu. On est un groupe de gamins à Saint-Pé, là, où on a fait la crèche, le rugby, les primaires, l'école primaire, le collège, tous ensemble. Et en fait, le samedi, ce qu'on faisait nous, c'est qu'on allait à l'école de rugby parce que nos parents, mon père jouait encore quand moi j'avais 5 ans. Et donc, du coup, le samedi matin, il était éducateur, j'allais là-bas et je jouais avec tous les copains. On a pris notre première licence. Mais c'était plus une cour de récré, une colonie pour nous, d'aller faire les tournois, d'aller faire les entraînements, qu'autre chose. On avait des résultats, certes, mais on ne se prenait pas au sérieux. On était juste contents de passer, en plus du lundi au vendredi ensemble, le samedi. Et à force de passer des moments comme ça, j'ai vu que le rugby, en fait, apportait, au-delà de faire du sport, de se défouler, apportait énormément autre chose, quoi. On sortait des matchs quand on était en minime cadet, on allait... aller à la boulangerie du coin, on faisait les cons jusqu'à 20h le soir, on prenait nos vélos, on rentrait. Enfin, c'est des choses comme ça qui m'ont amené un peu autre chose que faire du sport. Je me suis créé un groupe d'amis que j'ai encore à l'heure actuelle, qui viennent à tous les matchs, avec qui on reste la troisième mi-temps. Tu vois, c'est des choses comme ça qui ont fait que j'ai aimé le rugby. Et à travers ce sport-là, on pouvait vivre des moments qui sont exceptionnels, notamment dans l'extra-rugby ou même dans des moments où tu vas voir les matchs et tout. Donc, c'est plus dans les années cadets ou juniors que j'ai commencé à me dire que voilà, le rugby prenait une énorme place dans ma vie, et où je prenais énormément de plaisir et où j'avais envie d'y aller tous les week-ends. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas, et aussi avec l'aide de mon frère qui était devenu professionnel, je me suis dit pourquoi pas moi aussi, quoi.
Quel est le déclic qui t'amène à passer justement à OBO ? C'est quoi ? Tu as fait le centre de formation, tu es passé par ces phases-là aussi ?
Ouais, jusqu'à 18 ans, j'étais à Saint-Pé-Souvel.
Ouais, donc tu n'es pas, T'as pas le côté, je dirais, formaté, ouais, entre guillemets, justement, du passage à 14-15 ans dans les trucs, tu sais, cette espèce d'écrémage à 18 ans. Non, t'es arrivé à 18 ans. T'es comme moi, en fait. On a plein de points communs. Bon, t'es beaucoup plus doué. Moi, je ne savais pas plaquer un gonze et faire une passe à plus de 2 mètres. Mais ça se passe, c'est ce décalage en fait du village, comme moi je l'ai vécu à Beauvais, à OBO, qui est quand même une putain de culture rugby. Moi, j'arrivais à Paris au stade. Il y a quand même un... Il y a le périph' à passer.
Ouais, c'est ça. Je ne prenais pas le rugby au sérieux jusqu'à junior cadet. Cadet junior, je ne prenais pas trop le rugby au sérieux. Je m'amusais. J'étais juste content d'aller avec les copains, quoi. De tout ce qui se passait entre guillemets, autour du rugby, quoi. Tout ce qu'on pouvait vivre ensemble. Et c'est ça qui a fait qu'au bout d'un moment, Shimoun était à Biarritz en jeune. Et au moment de passer pro, il n'a pas été gardé par Biarritz. Il a signé en Marsan. Et moi, en fait, c'est là où Biarritz m'a contacté parce qu'on avait fait une très bonne saison avec le club de CMP en phase finale. Il m'a dit, voilà, j'ai un Lucu part. On a vu qu'un Lucu m'a marché un peu à Saint-Pétion-Duel. Est-ce que ça lui dirait de venir? Et sur le coup, moi, mon objectif premier, c'était de signer en première à CMP, quoi. À 18 ans, de jouer avec l'équipe première. Et en fait, non, quand j'ai vu que si mon frère signait pro et allait jouer en pro D2, je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas essayer, voilà, d'aller tenter l'aventure à Biarritz à 18 ans en Krabos, et pourquoi pas derrière essayer d'accrocher quelque chose, quoi.
Alors, ce qui est marrant, Maxime, puisque la transition elle est toute faite, tu parles de Shimoun, mais effectivement, il a signé pro à Mont-de-Marsan, mais dès lors que tu as intégré le groupe pro à Biarritz, il a tout fait pour revenir au BO, et c'est vrai que c'est une vraie particularité. Vous n'êtes pas les seuls, les deux frangins, à avoir joué ensemble. Mais toi qui as un vrai attachement familial, un attachement territorial, est-ce que tu peux nous parler de ce plaisir que tu as pu avoir à jouer avec Shimoun?
Ouais, il faut savoir que Shimoun, de ne pas avoir signé en professionnel à Biarritz, ça a été un grand coup dur pour lui parce qu'il se voyait, il avait fait quelques matchs amicaux, il se voyait jouer pro à Biarritz, et d'avoir échoué, pour lui, c'était assez difficile. Et de voir que 4 ans, 5 ans après, moi, je suis arrivé à avoir mon premier contrat professionnel dans notre club, qui était quand même notre club de cœur, parce que c'était le club phare avec Bayonne. Nous, on avait notre famille qui était rouge et blanche, donc on a forcément chaviré à Biarritz.
Pas le choix. Mais...
Non, voilà, pas le choix. On n'avait pas le choix, c'était que Biarritz.
Donc, tu m'as vu gagner à Biarritz, alors, à l'époque.
Oui. J'ai vu quelques matchs, oui.
Il y a un boulard comme ça.
Non, tu sais pourquoi, Arnaud.
Je devais être en tribune.
Ouais, et puis moi, je devais être 23e homme à côté de toi, à mon avis, parce que c'est cadeau, ça, tu vois. Le melon, mais j'arrive à me dégrossir. Hein,
mais du coup, voilà, le fait de réussir à Biarritz, en Pro D2, et que on a eu cette opportunité peut-être de pouvoir jouer en professionnel. Shimoun est venu à Biarritz et on a passé franchement trois ans formidables, alors qu'on n'espérait pas ça 4 ans ou 5 ans avant, quoi. Donc, ça a été des moments forts de se voir, de le voir déjà à la maison de toute mon enfance. Et là, de le voir dans le même vestiaire, le vestiaire à côté de moi tous les jours, de jouer, de se retourner quand tu es dans le dur et de voir ton grand frère derrière. Ouais, des choses comme ça qui ont fait que c'est forcément des moments où on a amené la famille dans les matchs à Biarritz, tout le monde venait nous voir. Ça a fait déplacer la famille et ça a forcément... eu des moments énormes dans les après-matchs où la famille était contente de nous voir là sous le maillot de Biarritz, ce qui était, comme je te disais, inespéré quand on était jeune, quoi.
Donc, jamais dans le gueulade, jamais dans le gueulade sur les débriefs d'après-match?
Non, jamais, forcément des déceptions, c'est un énorme râleur quand même. Donc il y a forcément eu des moments où il fallait recadrer, notamment l'épisode où j'ai été capitaine et que lui était numéro 15, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbitres qui venaient, il faut recadrer le numéro 15. Et quand tu vas à petit frère aller voir Shimoun et lui dire, calme un peu parce que tu fais que râler, la prochaine c'est carton jaune. J'avais des fois du mal, je lui disais, fais ce que tu veux. Et puis, de toute façon, je serai toujours avec toi, quoi, je te défendrai. Mais non, c'est... Des Anglais, non, il m'a beaucoup aidé par contre. Parce que lui, il voulait toujours que je passe le cap de la Pro D2. Donc il m'a toujours aidé par contre dans tout ce qui est analyse de match, dans tout ce qu'il fallait faire de bien, de mieux. Et donc ça, il a toujours été bienveillant envers moi.
Je trouve que l'histoire est top. Juste revenir deux secondes sur le Saint-Pé sur Nivelle. J'adore, moi, je trouve Saint-Pé sur Nivelle. Enfin, tu as envie de le chanter, le bordel. Il doit y avoir une chanson, tu nous chanteras ça à la fin, tu vois, à la fin du podcast. Ça, c'est cadeau. Non, c'est ton club formateur, on l'a dit. Quel lien tu conserves? J'imagine que tu retournes en fait au club là-bas, tu retournes avec les potes et que la bière, elle est de toute façon plus savoureuse là-bas. Bon, que la bière que tu as dû boire peut-être hier soir ou avant-hier soir. Enfin, voilà, ça, c'est cadeau, je te la glisse aussi. Allez.
Non, mais je, quand j'étais à Biarritz, j'avais un lien énorme avec eux parce que nous, on jouait le vendredi en Pro D2 et on avait les matchs le dimanche de Saint-Pé qui était à l'époque en Fédéral 3. Forcément, il y a eu des dimanches soirs qui ont failli déraper alors que j'ai un entraînement le lundi. Ça a été compliqué pour moi de dire au mec bon, mais désolé, je dois rentrer vers 22-23 heures parce que j'ai un entraînement à 8 heures le lundi. Ouais. Ouais. Mais il y a deux, trois fois, les héros ne savaient pas, mais j'ai traîné un petit peu et ça a déraper un peu. Ça, c'était le poker face le lundi matin.
Est-ce que tu as entendu un paquet de fois « Non, mais tu as changé depuis que tu es pro ». Ouais, tu as dû l'entendre un paquet de fois, ça.
Ouais, j'ai entendu beaucoup. Le jour où tu prends que trois bières, qu'à la quatrième, tu refuses parce qu'il faut rentrer, il y a des appels à 2h du matin. Tiens, tu fais chier. Non, forcément, tu l'entends. Mais après quand ils te voient sur le terrain, et notamment la saison dernière où tu portes le maillot de l'équipe de France, ils se disent « Bon, tu as eu raison de le faire ». Et là, ils sont un peu plus indulgents, quoi.
Mais
non, c'est sûr que j'essaye d'avoir un lien. Mes oncles sont dirigeants à SMP, mon cousin est coprésident. Donc forcément, j'ai un lien avec SMP qui est fort, quoi. Je vais voir tous les matchs, sauf quand depuis que je suis à Bordeaux, où c'est un peu plus compliqué, parce que de faire aller-retour sur une journée, des fois, je le fais sur un coup de tête, parce que j'ai envie d'aller manger le poulet de maman et papa, et d'aller voir le match l'après-midi, mais c'est dur de le faire tout le temps parce qu'il y a la récup aussi. Depuis que je suis à Bordeaux, je suis de loin, mais je vais moins voir.
Bon, tu as encore quand même le lien, tu le dis, avec cette époque-là. C'est ce que tu partages d'ailleurs sous le maillot de l'équipe de France, avec Charles Olivon aussi, qui t'a joué à Saint-Pé. Là aussi, ça doit être fort. Ça doit être fort de pouvoir jouer aussi avec un de ses meilleurs amis. Enfin, à peu près,
on a été très proches petits. Après, c'est sûr que tu te perds un peu de vue parce que lui a été très tôt à Toulon. Jouer et moi j'ai eu à Bordeaux, donc forcément les seules semaines de repos que t'as, tu pars en vacances et on a toujours une semaine en commun à SMP pendant les vacances, mais c'est très peu, quoi. Donc forcément qu'on est en lien fort depuis petit parce qu'on a créé ça, mais après voilà, on ne peut pas être en contact tout le temps parce que c'est compliqué vu que lui il a l'opposé de nous, quoi. Mais quand pour moi ça a été fort parce que j'ai eu mes premiers maillots avec l'équipe de France. Mais de ne pas le vivre avec lui, il manquait quelque chose, quoi, parce que je rêvais toujours de vivre ça avec Charles. 20 ans avant, on était avec notre première licence avec le maillot vert et noir, quoi. Et le premier match au Japon, où quand on a porté le maillot et qu'on s'est regardé dans le vestiaire, ça a été un moment dont j'ai rarement vécu, quoi. Ça a été un moment très fort parce que c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on écrivait quelque chose de fort pour le village, pour les copains, pour le club. Et là, on s'est dit, putain, on est venu le chercher et on porte notre premier maillot. Donc, il y a eu ce moment-là où on allait aller rentrer sur le terrain et c'était Marseillaise qui a été... Et surtout ce premier regard où moi, j'ai eu énormément d'émotions et ça m'a fait plaisir de jouer avec lui, d'autant plus quand on voit d'où il revient, quoi.
C'est incroyable comme histoire. Hein. Moi, j'en ai des frissons. Je trouve ça génial. Non, mais quand tu démarres à 5-6 ans dans un vestiaire, je trouve ça incroyable. J'ai pas de mots.
C'est comme Gelon et Dupont. Enfin, ces amitiés, voilà, en fait, qui sont fortes et qui inspirent aussi. C'est top. Hein.
C'est exactement ça. Il y a pas que nous, mais quand toi tu le vis, ça fait plaisir de le vivre. Tu vois, t'es un peu égoïste, quoi. Et c'est vrai que nous, à l'âge de 8 ans, on avait fait un challenge petit dop avec qui se déroulait à Marcoussis. On avait été voir les All Blacks, enfin France All Blacks en novembre, et on s'était dit, c'était en 2003 ou 2004, je crois, on s'était dit, putain, ça serait beau qu'un jour on y joue, quoi. Mais on n'y pensait jamais. Hein. Quand tu te dis ça parce que t'es gosse et que tu viens voir l'équipe de France, comme je te disais, parce que l'équipe de France, voilà, tu les adules quand t'es petit, quoi. Mais quand on se retrouve 20 ans après, on se disait, tu te rappelles le match des All Blacks, on y était, ben là, on porte le maillot de ces mêmes joueurs, quoi. Donc c'est ça qui est...
Tu bats les Blacks.
Ouais, c'est clair.
Là, en plus.
Il n'y était pas, mais c'est dommage. Non, ça, ouais. Mais au Japon, c'était un moment, voilà, vraiment fort, quoi, qu'on a vécu et pour tout le monde, quoi. Et c'est ça qu'on a retenu, quoi.
Est-ce que la distance, elle n'était pas la plus difficile quand lui était à Bayonne et toi à Biarritz, non? Ou est-ce que c'est celle de Bordeaux? Je parle des distances affectives pendant 80 minutes, quoi.
Non, parce qu'après, ça, c'est des légendes. Il n'y a pas non plus, on ne se fout pas sur la gueule quand on croise un Bayonnais en pleine ville, quoi.
Ah, pas en pleine ville, j'ai dit pendant 80 minutes.
Oui, mais le Pays Basque, c'est petit, donc on se croise forcément, il y a forcément des liens. Mais moi, Charles, je l'ai très peu joué. Quand il était jeune, il était toujours surclassé. Donc moi je jouais en Krabos et lui souvent il était surclassé en Réchelle et donc on n'a pas beaucoup joué en jeune, voire jamais. Et le premier c'est quand moi j'ai commencé à être pro et qu'on a fait un match amical contre Bayonne, on a fait au mois de juillet où on s'est retrouvé contre. C'était la première fois qu'on jouait contre. C'est l'une des rares fois où on a joué contre à part Bordeaux-Toulon. Mais à Biarritz, je ne l'ai jamais joué à part un match amical. Donc il n'y a pas eu forcément d'animosité, surtout que bon, lui et sa famille étaient bleu et blanc depuis petit. Il allait voir les matchs quand c'était en Pro D2 et moi, j'avais la carte abonnée avec mes parents à Biarritz. Donc il y avait les chambrages à l'école, mais bon, ça c'est mignon.
En parlant juste avant qu'Arnaud tu prennes le lead, en parlant de. C'est comment s'appelle le nom du tournoi en fait que tu as joué, tu dis à Marcoussis ?
Le challenge petit dope.
Ouais. Ah, dope, le shampoing, on est d'accord.
Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Ouais.
Okay. Voilà, y a, ça, c'est plus d'actualité.
Non. Allez. C'était un signe.
Je l'ai gardé en moi, je te jure, je l'ai depuis 5 minutes. Je me dis, où je vais la placer ? Allez, c'est cadeau.
Arnaud, ah, je voudrais qu'on parle de toi aussi, Maxime, parce que c'est vrai que tu dégages quelque chose de particulier dans ce monde de très, très professionnel. Aujourd'hui, on a le sentiment que tu es installé en tant que joueur international, mais que tu as ce statut de numéro 2. Et bon, il y a la tournée qui arrive avec un programme quand même assez copieux, hein, l'Australie, l'Afrique du Sud, championne du monde, que l'équipe de France, sous l'air Fabien Galthié, n'a encore jamais affronté. Et pour finir, le Japon. Comment tu te positionnes dans cette hiérarchie, toi, Maxime ? On a le sentiment que de l'extérieur, ben voilà, Antoine Dupont, c'est le meilleur joueur du monde. T'es résigné, enfin pas résigné, mais voilà, t'en as pris acte et tu te dis, bon, ben voilà, faut que je travaille avec lui, que je l'accompagne, je suis là pour finir les matchs et point barre. Que, en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence aujourd'hui.
Ben, y a surtout une concurrence très saine par rapport à ça. On décrit plus trop Antoine. Antoine, ce qu'il fait depuis des années est quand même fort. C'est le meilleur joueur du monde. Puis quand tu le vois tous les week-ends, bah, c'est compliqué de devoir se battre avec lui. Et c'est une erreur, ça serait une erreur de le faire. Quoi. Ce que nous font retranscrire un peu l'équipe de France et le staff, c'est surtout d'avoir une complémentarité à chaque poste et d'amener ça. On sait qu'on a une importance aussi forte quand tu es remplaçant que titulaire, même si voilà, d'être numéro 1, c'est forcément un signe auprès du staff. Mais quand tu rentres et que il y a un score à aller chercher, un score à garder, un score à truc, tu as forcément aussi beaucoup d'importance. Donc, il faut jouer de ça. Je sais très bien que moi, je n'ai pas les qualités d'Antoine ou que je peux avoir les qualités de Baptiste Couillou ou d'autres quoi, parce que je ne suis pas formaté comme ça depuis que je suis jeune et je n'ai pas leur qualité physique. Donc, j'amène ce petit truc en plus ou différent qui fait que je peux être complémentaire.
Différent, pas petit, ouais.
Ce côté gestionnaire, très gestionnaire. Ouais.
Voilà, et que je peux être complémentaire avec que ce soit Antoine ou que ce soit Baptiste ou que ce soit voilà, d'autres joueurs.
Est-ce que le fait de le vivre comme ça, Maxime, est-ce que le fait de ce que tu viens de nous faire le panel, de ce que tu as vécu depuis tout petit, de ta découverte du rugby, du fait de ne pas rêver véritablement de faire une carrière professionnelle, est-ce que ça te permet de relativiser aussi un petit peu et de te dire, en fait, non pas que ce soit une chance d'être derrière ce mec-là, mais de dire qu'en fait, tu es juste à ses côtés et que voilà, et tu prends ce que tu as à prendre. Et c'est plus comme ça, je le vois plus comme ça que ce côté. Je n'ai pas la sensation, et peut-être que je me trompe, hein, que tu n'as pas ce côté, comme je le disais tout à l'heure, côté crevard à la Stringer ou d'autres, tu vois, c'est demi-mêlée un peu crevard. Je ne te parle pas du caractère sur le terrain.
Parce que sur le terrain, il est là, je pense.
Mais non, tu l'as, bien sûr. Mais, bien sûr que tu l'as. Mais grave, c'est ce que je veux dire par là, c'est que tu es plus posé. Ce qui fait que tout ce que tu viens de nous raconter, je me dis, ouais, c'est en fait, tu profites d'être là où tu es. Et puis, ouais, tu as quand même envie de passer premier, c'est certain. Mais ce n'est pas de se contenter. Tu es bien là où tu es quand même.
Ouais, exactement. Après, ça serait beaucoup te diront que c'est minimaliste de se dire, ouais, ben, en fait, il y a Antoine et puis moi, je prends ce qu'il y a à prendre et je reste seconde. Mais ce n'est pas ce qu'on a voulu instaurer non plus depuis que l'année dernière où je suis arrivé en équipe de France. Moi, j'ai 29 ans. Mon parcours, comme tu l'as dit, il est très atypique. J'ai pris le temps de faire les choses comme moi, j'en avais envie. Je suis arrivé très tard dans le rugby de entre guillemets haut niveau, top 14 et les stages d'équipe de France. Donc moi, tout ce qu'on m'a donné à l'équipe de France, je suis hyper reconnaissant par rapport à ça. Et chaque fois que je suis sur le terrain, qu'on me donne 5, 12, 13 matchs titulaires, je donne ce que j'ai à donner. Et je sais très bien qu'Antoine apporte énormément au rugby français depuis quelques temps. Et moi, j'amène un truc complètement différent. Et je suis content d'avoir ce rôle-là aussi. Il faut savoir travailler avec aussi. Et c'est moi, de dire ce que j'ai vécu l'année dernière, c'est plus que bénéfique pour ma personne. Et en tant qu'homme, comme tu disais aussi, je me suis un peu découvert avec cette saison-là où ben, je suis un peu moins réservé, un peu moins timide et j'arrive à prendre un peu plus d'assurance en moi. Et d'avoir eu ce rôle-là a permis aussi à ce que je change en tant qu'homme et je suis fier de ça, quoi. Donc, je prends ce qu'on me donne et les perspectives qui arrivent aussi. Donc, j'essaye d'aller chercher. Je sais qu'il y aura énormément de combats par rapport à ça, énormément de concurrence. Mais je sais que voilà, ce qu'on me donnera, je prendrai comme cadeau et je donnerai tout pour que voilà, ma personne grandisse encore plus.
Alors justement, c'est marrant, Maxime, parce que tu donnes du grain à moudre finalement à ceux qui, pour te chambrer parfois, disent que tu es un peu le fils de Christophe Furios. Il paraît que l'an passé, avant les phases finales, enfin, c'est pas il paraît, Christophe a déclaré « Max m'impressionne par sa régularité, par la qualité de ses matchs, par sa qualité humaine. C'est un rassembleur exemplaire, il aime parler de jeu. J'aime quand il parle, il dit « Souvent, c'est lui qui fait le rassembleur, c'est lui qui fait le dernier discours, pardon, avant de rentrer dans le match, et j'aime bien sa façon de parler, je me retrouve dans ce qu'il dit. » Et surtout, il raconte cette anecdote croustillante, il dit « Quand je signe à Bordeaux en novembre 2018, lui avait déjà signé. Quand il jouait à Biarritz, j'aimais pas trop sa façon de jouer, ça manquait un peu de vitesse. J'avais dit au président Marty « Est-ce que Max Loukou s'est fait ? Est-ce qu'on peut changer ?» Moi, je voulais un autre joueur, mais c'était trop tard. Et aujourd'hui, j'aurais probablement... C'est là où Christophe Furios est très bon, c'est qu'il dit aujourd'hui, j'aurais probablement fait la plus grosse connerie de ma carrière si je n'avais pas pu le faire venir. Plus sérieusement, quelle relation tu as aujourd'hui ? Ce n'est pas une relation de père-fils quand même avec Christophe Furios.
Non, quand même pas. Je n'ai pas cette proximité forcément avec le staff ou autre qui pas qui est dérangeant, mais tu sais, c'est toujours... entre guillemets mal vu, si t'es proche, si t'es truc. Moi, j'aime bien avoir cette proximité. C'est le coach, il me demande de faire ça, je le fais. Il me demande de faire ça, je le fais. Il me demande de pas le faire, j'accepte. Je suis comme ça. Moi, on me donne un truc, je le fais. Après, quand je suis pas content, je sais le dire aussi. Et on a eu des accrochages aussi avec Christophe. Quand il y a des choses qui vont pas, c'est comme ça que ça marche. Mais forcément, que voilà, le fait qu'il dise ça, ça attise un peu voilà, certains joueurs qui...
Tu t'es fait chambrer, quoi.
Voilà, tu t'es fait chambrer, mais il n'y a pas une relation comme ça. On a une relation de confiance qui est forte, mais parce que moi, sur le terrain, quand je joue, je donne tout ce que j'ai, et que ce soit à Bordeaux, que ce soit un match un 3 décembre, il fait 3 degrés, c'est comme ça. J'ai le sentiment d'avoir de la chance de faire ce que je fais et d'être à la place où je suis. Donc, chaque entraînement, chaque match, je donne tout ce que j'ai. Et c'est vrai qu'à force... Ça instaure une qualité de confiance qui fait que on se dit qu'avec Max on peut voilà on peut tout lui demander, il le fera, et c'est vrai. Mais après voilà, il y a toujours ce moment aussi quand ça va pas, il faut le dire. Quand je suis pas content, je le dis aussi, et c'est ça qui fait que ça instaure ce petit truc de confiance. Et mais en tout cas non, voilà, moi j'ai une confiance de Christophe qui est forte, mais parce que sur le terrain voilà, j'essaie de donner le maximum pour lui donner raison, quoi.
Alors, juste avant que Raphaël conclue,
je ne vais pas conclure, mais je voulais mettre une petite pièce. Est-ce que c'est la même chose quand on te demande de. Est-ce que tu es la PlayStation des mecs en troisième mi-temps qui te disent de faire un vent? Non, rassure-moi.
La troisième mi-temps, c'est. Voilà. Ah, le rugby, il n'existe plus. Tu deviens normal. Mais je ne deviens pas, va faire ça, je ne vais pas le faire.
Pardon Arnaud, je t'ai coupé, mais j'avais.
Non, mais juste avant de basculer sur la dernière thématique, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a quelque chose qui m'a marqué chez toi, Max, c'est que quand on voit, là, ça fait déjà une petite demi-heure qu'on échange, tu es quelqu'un de très calme, très posé, et ça tranche quand même beaucoup avec la personnalité. Quand tu rentres sur un terrain, on te voit hurler par moments, mais je revois certaines images où quand tu sors du vestiaire, on dirait un enragé qui se met à hurler. Je me souviens de quelques matchs, notamment même à l'époque de la Pro D2, au tout début où tu as été capitaine, parce que tu as été capitaine très jeune, je crois, à 22 ou 23 ans avec le BO. C'est quoi? C'est un besoin d'extérioriser une pression, de libérer une soupape? C'est quoi ce truc?
Je trouve que, c'est comme tu dis, tu rentres dans l'arène. Donc je trouve que ce sport-là, tu sais très bien que tu vas rentrer dans un sport de contact. Tu sais très bien que voilà, tu prends des mecs qui sont toujours plus costauds que toi, et notamment moi qui suis petit. Ben, tu rentres dans une arène où tu sais que ça va être la guerre, quoi. Et quand tu rentres sur le terrain, ce moment-là, je trouve que c'est là où tu peux faire sortir toute la pression que tu as eue dans la journée du match, toute la pression que tu as eue la semaine. Tu sais très bien que quand tu rentres, le match est important. Donc, tu as toute cette pression, tout ce que tu gardes en toi pendant que tu es dans tes vestiaires en train de te changer, dans le tunnel, en train de regarder les mecs à côté, de te dire comme pendant 80 minutes, ça va être... Et en fait, moi, j'utilise ça pour lâcher un peu la pression que j'ai eue pendant la semaine ou pendant la journée, ou pendant même des fois, c'est des petits trucs que tu as eu extra sportifs, plus voilà, côté famille ou des trucs comme ça, qui te gênent un peu. Je me sers de ça quand je rentre pour... tout dégager et me dire, bon, maintenant, voilà, j'ai gueulé, je me suis relâché, je suis prêt à tout donner pour, pendant 80 minutes. Et c'est, j'utilise ce côté-là pour voilà, vraiment dégager ce que j'ai en moi et surtout me relâcher pour partir et pour me vider la tête avant de, voilà, de donner le coup d'envoi et de tout lâcher.
C'est cette sensation en fait qui d'ailleurs manque quand ça s'arrête. Les gens pensent toujours que quand on rentre sur le terrain, c'est oh, le public. Moi, ouais. Quand tu parlais là, je me voyais en fait rentrer au Parc des Princes. Tu vois, c'était c'était quart de finale de Coupe d'Europe en 2005 avant de battre Biarritz.
Contre Newcastle.
Ouais, ouais. Et en fait, les gens te demandent après, mais en fait là. Quelle sensation tu as, le public et tout ça. Mais en fait, le public, à la limite, je dirais presque qu'il est secondaire. Ce n'est pas contre le public. Ouais. Mais tu es dans ta matrice. Et c'est là où, en fait, les rugbymen sont un peu schizophréniques. Et c'est, ouais, en fait, je pense que tu te transformes et tu rentres dans un état et qui manque d'ailleurs quand ça s'arrête. Hein. C'est vraiment cet état pendant 80 minutes où c'est difficilement explicable. Hein.
Et je sais que quand tu es dans le tunnel et qu'on te demande pendant une minute d'attendre parce que c'est caméra qui doit, enfin, c'est le diffuseur qui doit lancer le top départ, ben, pendant une minute, en fait, tu as tout qui défile. Quoi. Et tu sais très bien qu'avant de rentrer dans l'arène, tout ne va pas se passer comme tu vas peut-être le vouloir ou quoi. Et tu sais très bien qu'il y a aussi cette part de risque parce que c'est un sport de contact et que tu as cette trouille en fait, qui tombe à ce moment-là. Et quand tu sors, en fait, tu dégages tout ce que tu as emmagasiné pendant la journée, pendant la pression, parce que c'est souvent des matchs à pression. Le top 14, tout le week-end, tu es un peu... sous les feux du projecteur et tout, chaque match est important, chaque match à la maison, chaque truc. Donc, quand tu es dans le tunnel, en fait, quand tu sors, c'est une délivrance, quoi. Et c'est vrai que le public, à ce moment-là, il n'existe plus, quoi. Pendant une minute ou deux, il n'existe plus et tu lâches tout, quoi. Et c'est après, au moment du coup d'envoi, bon, maintenant, tu te reconcentres et puis c'est fini. Mais ce moment-là, il est important pour moi. J'aime bien tout lâcher et pas garder. Et puis, ça fait du bien, quoi.
Bon. Maxime, écoute, je suis obligé de te la poser la question. Arnaud, il l'a dit au début. Non, commence pas à sourire parce que là, on va rentrer dans le sérieux. On va rentrer dans le sérieux sur une question. Bordel, pourquoi ça ne gagne pas aujourd'hui à l'UBB ? Je sais bien. Plus sérieusement, on a vu les saisons qui se sont enchaînées. Cette saison avortée avec le Covid, vous étiez hyper bien lancé. Et puis derrière, voilà, la machine s'enraye un peu plus cette année. Ce début de saison un peu compliqué. Est-ce que tu as des explications ?
On savait le début de championnat déjà au vu du calendrier qu'elle allait être compliquée, qu'elle allait être difficile. On sait que c'est une année Coupe du Monde aussi, donc tous les effectifs sont au taquet pour performer parce que tout le monde veut y participer. Il y a énormément d'ingrédients qui sont faits qu'il fallait être arrivé et être prêt. Le match de Toulouse, je trouve qu'on a été exceptionnel dans l'état d'esprit, dans la façon de les jouer, parce que c'est la première fois que Toulouse venait au complet nous jouer à Chavant. Avec tous les internationaux, toute l'armada qu'on les connaît, et notamment l'effectif XXL qu'ils avaient recruté cet été, et on les avait pris de la meilleure des façons. Et c'est vrai que ce match-là, de perdre de cette façon-là, en ayant le match pendant 60 minutes d'un point sur une pénalité à 50 mètres par Malvin, et derrière nous on loupe des occasions, ça nous a fait énormément mal, quoi. Et derrière, tu vas à Montpellier, tu commences à 6 jours après le championnat par le champion de France. Tu te retrouves, c'est leur premier match à la maison, tu perds. Donc voilà, tu rentres vite dans une spirale négative qui fait que tu te poses des questions et donc tu n'arrives pas forcément à trouver le rugby parce qu'il faut que tu le trouves vite parce qu'en face de toi, les mecs sont prêts et viennent faire un coup, que ce soit à Bordeaux ou même quand ils nous reçoivent, notamment je pense à Bayonne qui joue le maintien et qui chaque match est important et chaque match est survie. Toi, tu cherches un peu ton rugby et tu commences à avoir cette spirale négative où tu perds et voilà, tu as été joueur, et quand tu es comme ça, c'est difficile de rebondir et de trouver les facteurs qui font que tu vas trouver du positif. Donc, le seul truc qui va nous faire du bien, c'est d'enclencher une série positive en gagnant à la maison et en gagnant un match à l'extérieur, et notamment rattraper le match de Toulouse. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à le trouver en début de saison, c'est encore long. On sait qu'il y a des passages à vide dans chaque équipe. Nous, on lance début de saison. On n'est pas forcément prêt sur notre rugby. On a du mal à se trouver. Et il faut croire en nous et être positif. Je suis sûr que la pièce va tourner. Et on a un match important samedi contre le Racing qui fait qu'il faut qu'on arrive à enclencher déjà une marche avant. Et ensuite, ça passera forcément par une victoire à l'extérieur. Et pour l'instant, on n'arrive pas à le trouver parce que les équipes nous attendent et sont plus prêtes que nous. Quoi. Donc, Il y a une alerte. C'est pas le début de championnat qu'on voulait, mais on s'était préparé aussi parce qu'on savait le calendrier compliqué.
pour conclure sur la thématique qui a été la nôtre quand même depuis le début, ce match contre le Racing, Max, tu vas le jouer avec beaucoup de pression ou tu vas le jouer comme si c'était un derby sympé contre Anglet?
Je joue toujours les matchs comme si, voilà, j'oublie un peu la pression qu'il y a autour. Alors, quand tu es à 80 000 personnes au Stade de France et que tu rentres contre les All Blacks, c'est pas pareil. Mais je veux dire, là, quand je joue en championnat, je me dis toujours, voilà, c'est des matchs, tu es déjà heureux d'être là, c'est déjà bien ce qu'on fait. On a de la chance d'être là, donc il faut prendre ce match du Racing, comme je dis, comme je l'ai dit, contre le match de Castres à la maison et le Stade français. Voilà, on est devant notre public, on a nos familles qui sont là, il faut prendre du plaisir, il faut qu'on arrive à mettre une marche avant, et donc forcément qu'il y aura de la pression, mais je n'ai pas envie de parler de pression négative encore dans ce début de saison, parce que ça va nous encore plus miner, et puis on va se retrouver dans le fin fond du classement, et c'est pas ce qu'il faut, gagner le Racing, on repasserait devant l'adversaire du jour, et ça nous remettrait dans l'avancée, donc il faut qu'on arrive juste à trouver notre rugby et à être confiant sur nous, sinon on va enclencher une série négative et ça va être compliqué derrière de rebondir parce que le championnat top 14 est très très dur. Donc plus on sera négatif et plus on fera une saison catastrophique. Donc le maître mot que j'essaie d'avoir avec les mecs, c'est d'être positif le plus possible pour essayer d'enlever cette pression. Et notamment quand le Racing, il ne faut pas qu'on ait de pression négative, sinon on va être miné par l'événement. Quoi.
Union Bordeaux-Bègles, le Racing, ce sera donc samedi à 21h. Poulain Rafut, c'est terminé. En tout cas, cette deuxième partie avec Maxime Lecoux, c'était riche, c'était intéressant. On est remonté aux origines de Maxime Lecoux pour ceux qui nous ont écoutés durant cette grande demi-heure. J'espère qu'on n'a pas été trop long, Max. Un grand merci de nous avoir accordé un peu de temps. Raph, comme d'habitude, le petit mot de la fin, très rapide, sur notre invité.
Ah ben là, tu as envie de passer 10 heures, très rapide, tu le demandes là, c'est très compliqué pour moi.
Il manque une bière et des cacahuètes. Quoi,
mais grave, il manque un rad en fait, et puis d'enlever cet ordinateur, parce que Maxime Lecoux, il est quand même sur un CPC 6128 plus d'Amstrad de 1982, il n'a pas trouvé la caméra, donc comme quoi…
C'est pas le mien.
C'est pas le tien. En avant, tu étais beaucoup plus performant et sur le terrain en troisième mi-temps, et je souhaite un jour pouvoir trinquer avec toi, parce que ce moment était exceptionnel, et il y a toujours cette nostalgie de ne pas avoir joué… de pas avoir joué avec des mecs. Enfin, si, j'ai joué avec des mecs comme toi dans le genre. Mais oui. Tu vois, à Beauvais, tu vois, c'est ces moments-là qui manquent, quoi. Les terrains dans la boue.
C'est plus nous qui sommes un peu blasés de pas avoir été là 20 ans plus tôt, peut-être.
Il n'y avait pas les réseaux sociaux et bon, les troisièmes mi-temps, c'était toujours un petit peu les mêmes. Hein. Tu sais,
quand
tu as les degrés qui te montent au museau, t'es des débiles. Comme tu peux en croiser, j'en ai croisé et peut-être qu'on était peut-être les plus à certains moments. Merci beaucoup, Max, c'était top.
Allez, on va enchaîner, nous, avec la troisième partie de Poulain Rafut. Max, on te souhaite un bon match samedi soir contre le Racing.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment, c'était top. Merci beaucoup.
Allez, troisième partie, le débrief de Poulain Rafut, le débrief de l'interview de Maxime Lecoux, demi-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles, les demi-mêlées du 15 de France. Raph, on va pas se mentir, quel bon mec quand même. Il manquait effectivement une bonne pression, quelques cacahuètes. On avait envie presque qu'il nous raconte avec justement ses cacahuètes sur le bar, comment il a joué ce 2 contre 1, comment il a vu que le demi-mêlée n'avait pas couvert le côté fermé. On a envie avec Max de partager ces moments d'émotion, de passion d'après-match, à discuter pendant des heures.
Ah, c'est une belle surprise. Bon, après, tu connais mon connais technique. Hein. Je ne serais pas utilisé sur les 2 contre 1 qui auraient pu jouer tout ça, tu l'imagines bien. Mais je trouve, voilà, c'est une belle surprise. Je l'avais dit en portrait, je ne connais pas ce mec et je voulais connaître l'homme. Mais c'est absolument génial et je trouve que le casting qu'a fait Laurent Labitte, William Servat, Karim Ghezal et Rafi Banez, je trouve qu'il est absolument génial parce qu'ils sont allés chercher
évidemment.
Et Fabien, oui, mais qui sont allés chercher en fait pas obligatoirement les plus performants, je dirais, mais ceux qui arrivent en fait à créer un groupe et à fusionner et à jouer les uns pour les autres. Enfin, l'humilité du mec qui te dit en fait tu joues avec le meilleur joueur du monde, donc tu t'adaptes et tu es complémentaire. Son passé aussi du fait qu'il soit amoureux de ce sport, mais pour les valeurs des troisièmes mi-temps tout autant que sur les 2 premières. Ce regard un peu pétillant quand il te parle de son métier, parce qu'il en a fait un métier, quand il te parle de son grand frère, quand il te parle de Charles Olivon. Le mec, il te fait voyager, quoi. Il te fait voyager. Et en fait, oui, on a très peu parlé de stratégie et de technique. Bon, après, ce n'est pas la grande spécialité de Poulain Rafut, on le sait, hein. Mais voilà, c'est plus humain, c'est du qualitatif, c'est du ventre glisse et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu parlais justement avec lui de que ça se perdait. Mais je ne suis pas certain que ça se perde. Je pense que les joueurs se protègent, notamment sur les réseaux sociaux, pour donner une certaine image, mais que le fond de la troisième mi-temps, le fond de l'humain, le fond de ce que j'ai raconté d'ailleurs dans la première partie justement de ce rugby amateur, il l'est aussi en professionnel. Le truc, c'est peut-être un petit peu plus caché. Donc, à nous de jouer, notamment dans Poulain Rafut, pour aller chercher ces mecs-là, là où ils ne l'attendent pas. Et tu as vu, dès que tu commences à lui mettre une petite pièce, ça part au quart de tour. Et je pense qu'ils sont tous comme ça, plus ou moins à haut niveau, selon s'ils sont dans, devant le bus, au milieu ou au fond. Mais un Max Lucu, tu vois, c'est sur le terrain au début du bus. Et puis, quand c'est terminé, il doit être au fond à droite et puis balancer des saucisses comme les autres. Ça fait du bien. Ça fait du bien, Maxime Lucu. Tu nous as fait du bien. Et ça permet de découvrir derrière l'homme, de, le joueur derrière l'homme. Ouais, ça fait du bien. Merci, Maxime.
Eh bien, justement, puisqu'on parlait avec Maxime Lucu de cette bonne nouvelle hein, que la Fédération française de rugby a, a annoncée vendredi dernier, une augmentation de 14%, 14% en plus de licenciés par rapport à, la, à l'année dernière, à la même époque. L'augmentation est d'ailleurs, Raph, pour l'anecdote, plus importante hein, chez les femmes, plus 19% et plus 13,3% pour les hommes. Après les disettes, hein, qu'a connu, la disette qui a connu le rugby français, la baisse du nombre de licenciés, on a l'impression que le rugby est de nouveau en vogue. Et avec la perspective de la Coupe du Monde 2023, on a le sentiment qu'on va pouvoir enfin respirer, on va retrouver du plaisir, on va retrouver des stades pleins. Et en grande partie, quand même, on va le dire, grâce aux résultats de l'équipe de France.
On l'a fait, Arnaud, hein, l'état des lieux pendant des années, on l'a fait ici dans Poulain Rafut, toi dans le middle, dans le milieu olympique. On a vu les mêmes choses, hein, 10 années de rugby en crise au sortir de cette Coupe du Monde 2011 avec les intérêts des uns et des autres. Aujourd'hui, on a une équipe de France qui brille, on l'a toujours dit, hein, il fallait redorer le blason de l'équipe de France. On a la chance aussi d'avoir une équipe féminine aussi qui a explosé depuis 2014. On en a parlé avec Marie Sampéré la semaine dernière. Et puis, voilà, des joueurs de l'équipe de France qui brillent, une génération aussi qui arrive, qui est acquis à la cause de l'équipe de France et plus à sa faire carrière individuellement. Donc, l'équipe de France brille, les féminines aussi de l'équipe de France brillent. Ça fait du bien. Et en plus, avec du caractère. Oui, les mecs sont super professionnels, mais voilà, on arrive à partager ces bons moments comme on vient de les partager avec, avec Maxime. Ouais, c'est génial. Et puis, Coupe du Monde en France l'année prochaine. Alors, ce qui fait chier, c'est que tu as toujours des petites histoires un petit peu à la con qui viennent entacher le truc. Mais c'est extra rugby. Mais on a bouffé notre tartine de merde, comme le disait Guillaume Guirado pendant des années. On rappelle aussi qu'il y a eu quand même quelques petites tragédies aussi. Voilà, on en est sorti parce qu'on a changé le rugby aussi, a changé ses règles. Donc, on a moins de tragédies, beaucoup moins. Donc, voilà, le rugby brille aujourd'hui et ça fait du bien. Les hivers ont été rudes. Les résultats aussi de l'équipe de hand ont fait que bah, peut-être qu'on avait plus envie d'aller se planquer dans un gymnase. On ne parle pas du Racing, hein, bien entendu. Mais là, aujourd'hui, voilà, on a envie de ressortir. On a envie de se foutre un peu le museau dans la boue. Moi, d'ailleurs, je le disais hein, en première partie, je vais rechausser les crampons. Je vais aller faire un touch, notamment à Tarascon. Bah, tout ça, ça donne envie. Quoi. Quand tu vois un mec comme ça, comme on a reçu Maxime et tous ces mecs-là, et ces nanas, bah, on a envie de retourner voilà, et de remettre le maillot, même à 42 ans. Quoi.
Eh ben, justement, puisque tu vas remettre le maillot, peut-être que tu vas jouer une Coupe du Monde, Raph. Pourquoi je dis ça? C'est tout bête. C'est un événement que tu as souhaité mettre en avant. C'est un événement qui te tient à cœur. C'est le Festival mondial du rugby amateur. En effet, parallèlement à la Coupe du Monde 2023, en fait, se tiendra cette compétition durant la même période. Cette compétition va rassembler 20 clubs des 20 plus grandes nations du rugby mondial. Et ça, ce sera une première. Et je crois que c'est un truc que tu voulais mettre en avant, Raph.
Bah, on voulait le mettre aussi en avant, toi et moi, parce qu'on a besoin de mettre en avant ces initiatives. C'est ce que je disais une fois de plus, hein, dans la première partie de l'émission, c'est les initiatives que tu prends, c'est tout le travail qui est mis en œuvre dans les clubs amateurs. On entend beaucoup Top 14, Pro D2, le tournoi Destination, l'équipe de France, on en parle et c'est normal. Mais c'est tout ce travail aussi en amont qui forme nos gamins, qui permet aussi à des joueurs de jouer jusqu'à 40, voire 50 ans aussi dans les clubs folklore. Voilà, c'est tout le rugby en fait qui fourmille et qu'on aime. Donc, c'est normal d'avoir cette Coupe du Monde. Il faut la mettre en avant, elle aussi. Et puis, on a sûrement des pépites aussi à Beauvais, à Saint-Pé-sur-Nivelle, voilà, au PUC ou ailleurs, quoi, dans tous ces petits clubs.
Ou à Tarascon,
exactement. Et il y a des pépites partout. Donc, voilà. Et puis, faire carrière dans le rugby, ce n'est pas obligatoirement faire carrière et gagner des boucliers de Brius. Faire carrière dans le rugby, c'est commencer à 7 ans et peut-être finir le plus tard possible dans les clubs amateurs. On souhaite bien sûr aux gamins qui rêvent d'atteindre leur rêve, d'atteindre le haut niveau, mais de faire carrière dans son petit club sur 10, 15, 20, 30 ans, c'est la plus belle des histoires pour moi.
École de rugby, école de la vie, c'est un beau slogan et on vous invite évidemment à mettre vos enfants dans les écoles de rugby. On vous invite à leur faire découvrir ce sport et et cette convivialité, notamment dans toutes les écoles de rugby, avec le petit goûter, hein, Raph, le mercredi, après préparé par Denis, c'est ça, non, par Michel de la Beauvais.
Non, c'était Anne-Marie Lenormand, ma première entraîneur, la famille. Ouais, la famille Lenormand, tu vois, je parlais des familles aussi importantes dans le rugby, mais que tu as connu, on connaît tous ces familles en fait qui se livrent corps et âme pour le rugby amateur. Donc il y a tous des Anne-Marie Lenormand dans tous les clubs de France, et bien sûr qu'on les embrasse parce que c'est elles qui nous ont fait clapper après les entraînements.
Allez, on les salue tous ces clubs amateurs, on les invite évidemment à écouter ce podcast parce qu'ils vont évidemment se retrouver dans les propos de Maxime Loucou et dans ceux évidemment de Raphaël Poulain. Raph, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, pas la même heure, on ne sait jamais, mais en tout cas avec le sourire.
Merci beaucoup Arnaud, et je pense que toi comme moi, on s'est bien régalé sur cette émission parce qu'on a parlé de ce que t'aimes, de ce que j'aime, de ce qu'on aime, du rugby que t'as connu et que j'ai connu, et ça fait du bien. Merci à toi.
À très vite.